Nous allons parler de Rome, de sa large respiration aux dimensions du monde. Il semble que les Romains, certains du moins, connaissaient même l'existence de la muraille de Chine.
Alors je vais appeler nos ingénieurs du Centre d'exploration du temps. Allô, au Centre d'exploration du temps, me recevez-vous ?
Rome, l'exploration d'une première mondialisation ?
Comprends-tu ce que ça signifie d'être citoyen de Rome ? Ça veut dire que où que tu sois, et qui que tu sois, les gens savent que s'ils t'attaquent ou s'ils te maltraitent, toute la puissance de Rome viendra se porter à ton secours.
Au deuxième siècle de notre ère, un grec rallié, Aelius Aristide, faisait ainsi l'éloge de Rome. Rome tient chaque endroit de deux manières, à partir de son centre, mais aussi cité par cité, grâce aux élites de chacune, toutes convergeant, comme vers une commune agora, vers la capitale. À l'époque de l'Empire, l'agora était en réalité devenue le conseil du prince. C'est par un souverain chargé de maintenir la paix que passait la mondialisation politique. Parce qu'il s'agit bien d'une première expérience de mondialisation, laquelle est allée de pair depuis la fin de la République avec le décloisonnement économique grandissant. Rome n'aurait jamais connu pareille respiration si un choix très particulier ne l'avait inspiré. On a l'habitude de dire que les Grecs se considéraient comme différents des autres. Il faut bien voir aussi que les Romains étaient différents des Grecs. Ceux-ci considéraient qu'une cité était accomplie lorsqu'elle était refermée sur ses qualités et sur un petit nombre. Les Romains, au contraire, ne jugeaient pas que la barque était pleine, comme le fait remarquer leur empereur. En 48, quelle autre cause perdit les Lacédémoniens et les Athéniens, sinon qu'ils écartaient les vaincus en raison de leurs conditions d'étrangers. C'est cette singularité de Rome qui lui a permis d'unifier les diversités et de prendre la tête d'un monde entier.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
C'est l'hypothèse, bonjour Yves Roman.
Bonjour.
Que vous soutenez dans un grand livre paru aux éditions Payot, Rome et la première mondialisation. Alors on vous doit, à vous seul ou à vous en couple avec Madame Roman qui exerce le métier.
Elle était professeure des universités comme moi et nous enseignions tous les deux l'histoire romaine.
Un couple
et nous avons
terrible.
Commencé tous les deux en étudiant la Gaule.
Et puis vous avez travaillé aussi beaucoup sur le rapport de l'hellénisme et de Rome, parce que une idée force de votre livre, c'est, je l'expliquais, les Grecs sont peut-être différents des autres, mais les Romains sont différents des Grecs, et ça se voit dès les récits fondateurs.
Tout à fait. Le récit de Plutarque à propos de Romulus est extrêmement intéressant, en ce sens qu'il montre que Rome n'est pas une ville grecque, comme certains le disent, parce qu'elle a été effondée avec un ramassis, comme le dit saint Jérôme, c'est-à-dire des gens venus de toutes parts, et dont certains avaient un casier judiciaire, si j'ose dire. Mais on a pris tout le monde, et Rome est une cité ouverte dès l'origine. Et ça change complètement la perspective par rapport aux cités grecques.
Alors ça veut dire que ceux qui veulent changer de statut, les étrangers, les captifs, peuvent trouver une hospitalité à Rome, à condition de manifester les qualités qui sont affirmées justement dès les textes racontant la fondation. Rome, c'est un peuple hiérarchisé, respectueux, révérencieux.
Tout à fait, révérencieux des dieux. Les Romains considéraient que ce qui faisait leur originalité, c'était leur relation particulière avec le divin. Qu'ils étaient le peuple le plus religieux du monde. Les Grecs considéraient que les Romains, sur le plan religieux, étaient un peuple attrape-tout, parce qu'ils avaient donné l'hospitalité à un certain nombre de dieux étrangers, et ça, c'était intolérable pour eux.
Oui, mais ce qui intéressait, dans le rapport au divin, les Romains, c'était le respect des rites.
Bien sûr.
Peu importait l'action des dieux.
Sûr. Si les rites n'avaient pas été accomplis de manière correcte, on refaisait, bien évidemment, autant de fois qu'eux.
Mais il faut aussi que vous nous disiez que c'est un peuple hiérarchisé, organisé autour du pater familias.
Oui, c'est la grande particularité de Rome. C'est l'autorité du pater familias sur les siens, y compris les majeurs. Et jusqu'à sa mort, c'est le pater familias qui gère seul les biens de la famille. Même s'il a des fils qui ont 30, 40 ou 50 ans, et s'ils veulent se présenter à une élection, il faut l'autorisation du pater familias. Lorsque Tibère a été adopté par Auguste, il était sui juris, comme nous disons en droit romain, c'est-à-dire qu'il ne dépendait que de lui-même. Il était pater familias. Il a cessé d'être pater familias. Ses biens ont été immédiatement gérés par les procurateurs d'Auguste.
Et le Sénat, parlons de l'époque républicaine, d'abord, au fond, c'est l'assemblée qui se réfère tout le temps au père d'autrefois.
Bien sûr, bien sûr. L'attitude d'un Romain, c'est comment mes ancêtres auraient-ils procédé face à la même situation. Bien sûr. Et quant au Sénat, originellement, et c'est cela qui pose problème plus tard avec l'émergence de l'Empire, c'est une assemblée de rois, mais de rois qui n'ont pas le titre de roi, bien entendu.
C'est un réflexe paysan quand même de se préoccuper de ce que penserait son père et d'arrondir le domaine de son père.
Bien sûr, Caton disait que si on n'arrondissait pas le domaine de son père, on se comportait comme une femme veuve.
Les paysans peuvent être enrôlés dans des circonstances particulières au moment de la conscription, que voici ici décrite par une émission de France Inter qui remonte à la plus haute antiquité, la Tribune de l'Histoire.
Quand la guerre est décidée par le Sénat, on ouvre le temple de Janus, le dieu des passages. Il y a deux portes de la guerre consacrées par la religion et la terreur qu'inspire le sauvage Mars. 100 verrous de bronze, des barres de fer indestructibles, les ferment. Quand le Sénat a décidé irrévocablement qu'on se battra, le consul en personne ouvre les portes grinçantes. Il appelle à la guerre. Le citoyen de Rome a besoin de la guerre pour devenir soldat. Devenir un autre homme, sortir de l'espace étroit de sa ferme et affronter une autre réalité. Le sacramentum soumet le soldat au général, mais le libère des interdits de la vie civile. Il peut tuer et blesser les ennemis et même ses compagnons d'armes, si le général lui en donne l'ordre, sans être souillé par leur sang. Il se purifiera lorsqu'il reviendra dans le monde de la paix. Sans ce sacramentum, le soldat ne peut pas combattre, même armé de pied en cap. Il reste un civil.
Hiérarchie, et puis serment. Le sacramentum, c'est le serment.
Oui, c'est le serment qui est sous l'égide de Jupiter, bien sûr. Et qui est l'élément le plus important, qui lie les hommes aux dieux. Sur le plan militaire, et c'est la raison pour laquelle, lorsque s'est produite l'affaire des Bacchanales, on a considéré que le serment prêté par les initiés venait en concurrence avec le sacramentum.
Les Bacchanales, la 186. Secte de Dionysos, oui. Est accusée de se répandre sournoisement dans Rome. Alors, la sévérité était grande, expliquez-vous, dans les rangs de l'armée romaine. Les récompenses pouvaient être importantes. Alors c'est là qu'il faut qu'on parle des premières formes d'arrondissement, parce que la mondialisation, ça va être notre perspective dans cette émission, Yves Roman. Les colonies, l'Italie et la sanctuarisation de l'Italie. Je vous laisse raconter ces trois étapes.
Il y a une différence entre les Grecs et les Romains. Les Grecs, lorsqu'ils étaient vainqueurs d'une cité, lui imposaient une garnison. Les Romains n'ont jamais procédé ainsi. Ça a étonné les Grecs. C'était un moyen d'humilier les gens, bien entendu, et de les tenir. Les Romains se sont emparés d'un certain nombre de terres des vaincus. Ils les ont confisquées. Et sur ces terres, ils ont créé des colonies, qui peuvent être des colonies de droit romain, des colonies de droit latin. Et ces colonies étaient généralement disposées par rapport à des routes. Donc il y a là tout
un système.
Et c'est
là que les vétérans des légions pouvaient bénéficier de récompenses.
Bien sûr.
C'est la duplication de l'URPS, du modèle urbain.
C'est la duplication. Ces colonies sont un surgeon de la ville, disent certains textes.
Ça a quelque chose de rassurant en même temps,
oui,
pour le Romain.
Mais ce qui signifie que la duplication peut aller jusqu'aux limites du monde.
Alors on commence, si vous le voulez bien, par l'Italie.
C'est très compliqué dans le détail. À l'origine, Rome est une cité parmi d'autres de la Ligue latine. Mais à la fin du IVe siècle, elle a décidé que les décisions ne seraient plus collectives et que c'est elle qui déciderait pour tout le monde. Et ça a été imposé par la force. Et désormais, Rome, avec divers procédés et diverses guerres, a poussé son avantage vers le sud et vers le nord. Donc vers le sud, c'est le monde grec ou hellénisé d'Italie du Sud. Il y a les Étrusques. Et au-delà des Étrusques, il y a le tourbillon celtique qui est extrêmement foisonnant.
Et puis alors, si on regarde maintenant vers l'est, au-delà de l'espace adriatique, il y a l'Illyrie, et puis il y a la référence grecque.
Il y a
l'extension, c'est aussi la mise sous tutelle de la Grèce qui va accepter.
C'est la mise sous tutelle de la Grèce. La relation entre les Romains et les Grecs est extrêmement complexe et relève d'une démarche qui est unique dans l'histoire, presque pratiquement dans l'histoire du monde. Les Romains ont installé un empire, mais ils ont toujours reconnu une grande supériorité culturelle aux Grecs. Simplement, ça n'entraîne pas que ce soit l'hellénisme qui ait structuré Rome. La situation est celle-ci, décrite par Cicéron. Les Romains ont abandonné des pans entiers, la philosophie, les mathématiques. Alors, pour les mathématiques, c'est très simple. Cicéron dit, on ne s'en est pas occupé, sauf pour mesurer la Terre. Et là, sur ce plan-là, ils ont atteint un niveau tout à fait extraordinaire. Et c'est une démarche qui est typiquement romaine, mais qui, je crois, et ne relève pas entièrement de l'hellénisme, tant s'en faut, et est largement enraciné dans la terre italienne et dans la société italienne.
Le sud, c'est Carthage. Alors, on se souvient de Caton l'Ancien, qui avait été en ambassade à Carthage. Nous sommes maintenant au IIe siècle avant notre ère, qui en était revenu impressionné et qui clamait qu'il fallait détruire Carthage. Je voudrais qu'on s'arrête un instant, parce que vous le faites à plusieurs reprises dans votre livre « Rome et la première mondialisation » sur ce personnage de Caton l'Ancien, qui a vécu le scandale des Bacchanales que vous citiez, qui a vécu pendant 90 ans, qui faisait profession de frugalité. Alors, peuple paysan, hiérarchisé, révérencieux, Caton l'Ancien dit aussi que c'est un peuple d'abord frugal.
Oui, Caton avait un principe. Si je dispose de quelque chose, j'en use. Si je n'en dispose pas, je n'en use pas. C'est-à-dire que je ne le recherche pas. Et c'était une maxime de vie. Simplement, ce qu'il y a, c'est que Caton est un personnage extrêmement complexe. C'est un personnage qui tient un rôle très important dans l'histoire de Rome, qui est le conservateur, qui voulait à tout prix que les interdictions de bijoux pour les femmes soient maintenues, et ainsi de suite, parce qu'il pensait que la richesse d'un sénateur ne devait pas se voir autour du cou de sa femme.
Bon, et que la médecine devait être pratiquée avec les produits de sa propriété, et pas selon les théories grecques.
La médecine reposait sur des herbes, et non pas sur les théories grecques, bien sûr.
Mais tout est dans la propriété. Voici le portrait de Caton l'Ancien par André Pigagnol, que vous surnommiez quand vous étiez étudiant.
Non, c'est les générations précédentes.
Gapignol, le voici au Collège de France.
Nous le voyons arriver sur ces terres, saluer d'abord les dieux lards dans leur chapelle, et tout aussitôt convoquer son intendant qui est un esclave. Celui-ci essaie d'expliquer l'insuffisance des travaux accomplis. Les esclaves ont été malades, d'autres se sont sauvés. Il a fait mauvais temps, il a fallu faire des corvées sur les routes. Caton s'irrite et répond, par mauvais temps, il fallait employer les esclaves à raccommoder leurs vêtements. S'ils étaient malades, il fallait faire des économies sur la nourriture.
Ma maison est un endroit très simple. Des pierres qui chauffent au soleil. Un potager qui sent les aromates la journée et le jasmin le soir.
On lui demandait un jour quel était le meilleur placement. De bons pâturages, dit-il. Et que mettait-il en deuxième lieu? De médiocres pâturages. En troisième lieu, de mauvais pâturages. En quatrième lieu, des terres de labour. Et comme son interlocuteur insistait en disant « Que penses-tu du prêt à intérêt ?» il répondait « Que penses-tu d'assassiner ?»
Tu parles, Caton, on pourrait dire ça si on était irrévérencieux. On est donc un peu avant sa mort, il a disparu en 149 avant notre ère, et vous racontez que l'homme frugal, qui condamnait le prêt à intérêt, a réinventé la réassurance, parce que sa propriété foncière donnait beaucoup de produits qu'il fallait exporter par la mer.
Oui, mais ça va plus loin que l'exportation de ses propriétés, parce que normalement les sénateurs étaient autorisés à exporter sur des navires de 300 amphores et pas plus. Là, nous sommes très très au-delà. Ce que Caton pratiquait, c'était ce qu'on appelle le prêt à la grosse aventure, c'est-à-dire l'assurance de navires. Mais ce que Caton avait inventé, c'est ceci. Avec 49 autres, ils assuraient 50 navires et ils prenaient des participations croisées, ce qui fait que si un navire allait par le fond, il ne perdait qu'un cinquantième. Il n'a certainement pas inventé le système. Il vient du monde grec, mais il l'a perfectionné. Et il y a un problème de traduction du texte de Plutarque, parce que dans ces affaires, on n'explique pas vraisemblablement son affranchi. Et on a le nom de son affranchi, qui surveillait les affaires, faisait vraisemblablement de l'import-export. Comment s'arrangeait-il avec Caton? Caton prêtait-il de l'argent, etc.? Je n'ai pas le détail.
En tout cas, ça témoigne, gardons le fil de la mondialisation, vous osez le mot, de l'établissement de liens multiples avec des espaces jamais connus et d'un décloisonnement dès l'époque de la fin de la République. Alors évidemment, là, il va y avoir des problèmes de traduction, beaucoup plus graves que ceux que vous évoquez. Je vous propose, avant qu'on continue à pratiquer la marine, d'écouter ce rap en latin. C'est un groupe allemand. Il a composé ça à partir de Tacite, de Virgile. Enfin, c'est un peu du latin de cuisine. Vous reconnaîtrez peut-être. Vos raptores orbis, Romani.
C'est des gens qui ne sont pas très très contents de la mondialisation politique telle qu'elle est pratiquée par les Romains, visiblement.
Aquinopiam, pare affectuco cum piscunt, offere, trucidare, rappere, valdis nominibus imperium, atque, ubi solitudinem faction, pacem, appellat. Atque, ubi solitudinem faction, pacem, appellat.
Romane, lungel, perium, apulos, romane, memento, et ibe modale. Romane, romane, pacere, subjectis, et ibe lato, se fosu. Romane, memento, e chi vi è odante? Ora, ora, parte del suo obiettivo, di bellato tutto fuori.
Entra poco, sono romani, posso quam, conti abbastanti, vostre cure, terre, mare, tutto il tuo, stilo completo, fosse stesso, organizzi, paura, ambiziosi, fosse non orient, non occident, stati avveriti, stilo completo, fosse stesso, organizzi, paura, ambiziosi, fosse non orient, non occident.
Romane, memento, e ti vivo d'arte. Ora, romone, parte del suo obiettivo, e ti vivo l'arte tutto posto. Romane, tu mi chiedi per il tuo volo. Romane, memento, e ti vivo d'arte. Ora, romone, parte del suo obiettivo, e ti vivo l'arte tutto posto.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun, sur France Inter.
Des curions qui arrivent des Gaules.
C'est moi.
Il faut compter les sacs, les peser et les sceller. C'est encore une façon de servir Rome.
Allons, vite, au travail tout le monde.
Toi, tu vas te mettre là sur le quai et tu compteras les sacs l'un après l'autre, sinon ils nous voleront aussi le navire. Envoyez les sacs.
Envoyez les sacs.
La mondialisation à la romaine, un livre d'Ivremont aux éditions Payot. Je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas contents, c'est Germain du groupe Ista, Vos Raptores Orbis. Romani, crie-t-il à leur façon, parce que les échanges extraordinaires organisés autour de la mer, avec le blé d'Égypte, le blé de Gaule, des échanges dont témoignent, il faut que vous nous parliez d'archéologie sous-marine, des épaves et des traces d'amphores un peu partout.
Oui, ils reprennent un texte d'un monarque hellénistique et qui décrit les Romains comme des voleurs.
Alors que c'est pas ainsi que vous les décrivez.
Ils ont volé partout, etc., dans tout le monde, et ainsi de suite. Alors, l'archéologie sous-marine, c'est très simple. Début du XXe siècle, c'est le navire de Madia au large de la Tunisie. On fouille, c'est comme dans Tintin, avec les semelles de plomb, etc. C'est pas une fouille très fine, hein. Bon. Et les choses mutent au milieu du XXe siècle grâce au scaphandre autonome de plongée mis au point par Émile Gagnan avec l'aide de Jacques-Yves Cousteau. C'est une retombée de petits bricolages de la dernière guerre qui faisait marcher les voitures au gaz et pas à l'essence. Et à ce moment-là, on a changé d'horizon. Et le quantitatif a fait irruption dans les affaires romaines. Jusqu'ici, on n'avait jamais trouvé plus de 50 amphores en Gaule. C'était un dépôt à Château-Meillan. L'épave du Grand Congloué, fouillée par Jacques-Yves Cousteau et Fernand Benoît dans les années 50-60, a révélé 2000 amphores de cestus. C'est-à-dire qu'on a changé complètement de niveau. Il restait deux choses à faire. Ça a duré des décennies, pointées sur des cartes, avec les estampilles des amphores, parce que l'amphore, ça ne disparaît pas, d'une part. Et d'autre part, deuxième étape, faire de l'archéologie spatiale en Italie, c'est-à-dire parcourir notamment des vignes, regarder s'il n'y avait pas des tessons. Et ensuite, on a découvert des fours, on a découvert des quantités. On avait alors les points de diffusion et les points d'origine.
Puisque vous faites du quantitatif, tout près de Rome, une colline triangulaire de 30 mètres de haut, d'environ 1 km de périmètre et d'une surface de près de 20 000 mètres carrés. Il s'agit du Monte Testaccio, c'est le haut lieu de l'amphorologie.
Oui, si vous
ce
voulez.
Ce sont des débris d'amphores.
Ce sont essentiellement des amphores dues à huile de bétique. Et il y en a des millions et des millions. Simplement, on ne peut pas fouiller ce site parce qu'il est instable. Et j'ajouterais ce que les manuels ne disent pas très souvent, qu'il y avait une deuxième colline qui a été détruite au XVIe siècle à Rome et qui était à peu près du même acabit.
Puisqu'on parle d'échange, je vous avais proposé d'employer un mot très savant, dont vous allez nous dire qu'il est très simple, en échange d'amphorologie. Pour désigner le grand commerce, nous avons le mot...
Crématistique.
Crématistique.
La crématistique, oui.
Alors là, le grand commerce, la crématistique romaine, ça peut aller au-delà de l'Empire, jusqu'en Asie, où pouvaient régner d'autres pouvoirs de grande dimension à l'époque de l'Empire romain.
La crématistique, c'est le grand commerce qui s'oppose, qui est une vision... je dirais financière et commerciale des choses et qui s'oppose à la gestion patrimoniale fondée sur la terre. Quant au commerce avec l'Extrême-Orient, il est très important. C'est des découvertes qui ont été faites ces 30 dernières années. On a des monnaies romaines en Inde, en assez grand nombre. Et il y a une discussion sur le texte de Pline qui dit que, il ne le dit pas comme ça, mais ça revient à ça, que la balance commerciale romaine était déséquilibrée à cause du commerce de la soie, parce que toute l'aristocratie utilise de plus en plus la soie sous l'Empire, à cause du poivre, etc., des perles. Et il y a un texte tamoul, je crois, qui décrit les mouvements de bateaux en Inde. Il y a un commerce très important.
Mais alors, je veux bien pour l'Inde, avec le passage par Alexandrie, les villes du désert, la mer Rouge, les serres. C'est ainsi qu'on nommait les Chinois.
Les Chinois, oui.
Et par où passent les moyens de commercialisation avec les Chinois et comment d'ailleurs se déroule-t-il précisément?
Il y a des routes terrestres, si vous voulez. Ce qu'on a aussi découvert depuis le vase de Vix et on vient d'en découvrir un autre.
À la Vaud, dans l'Aube.
Là, c'est ça.
Alors là, on est en France, très à l'intérieur
voilà,
des terres.
Il y a un grand commerce de très grand luxe à très haute époque. Et ce commerce, on est au 6e, au 7e, 6e siècle avant Jésus-Christ, il atteint parfois, venu de Chine, il atteint parfois l'Allemagne du Sud d'aujourd'hui. Mais les quantités dans les tumulus de l'époque hallstattienne de soie sont extrêmement faibles, bien évidemment.
Alors dites-moi, pour que ce commerce de proximité ou de très longue distance puisse s'organiser, il faut des instruments de régulation.
Oui, bien sûr.
Le droit assez unifié, la comptabilité peut-être moins unifiée.
Mais la comptabilité, il y a un ouvrage qui vient de paraître dû à Gérard Minot qui nous fait comprendre des choses qu'on n'avait pas compris. On croyait que les gens comptaient sur leurs doigts, qu'ils comptaient mal, etc. Et on s'aperçoit que ce sont des techniques extrêmement sophistiquées. Simplement, Gérard Minot dit que les Romains avaient les moyens de passer à la comptabilité à partie double. Je ne dis que ça parce que je ne suis pas compétent pour en parler, mais qu'ils ne l'ont pas fait.
La comptabilité à partie double, on date ça du monde méditerranéen, de la fin de ce qu'on appelle le Moyen-Âge.
Bien sûr.
Et donc, ils avaient les moyens, les Romains,
c'est de... C'est ce qu'il dit. Et donc, c'est quand même extrêmement intéressant.
Dites-moi, vous nous parliez de la soie et du poivre. C'était une manière, pour ceux qui se situaient au sommet de la hiérarchie sociale, de se singulariser, que d'user de la soie et du poivre. Ça veut dire que l'ancienne aristocratie, elle n'avait plus le temps de s'occuper de politique, ou plutôt la politique ne lui était plus ouverte et s'occupait d'autre chose.
C'est compliqué. On peut aller jusqu'à...
Alors, j'aime bien quand vous dites c'est compliqué.
On peut aller jusqu'à 4 kilos de poivre dans un repas. Ce qui indique qu'on est dans une maison aristocratique. Bien. C'est compliqué parce que la frugalité a fait un retour, ou a connu un développement considérable sous l'Empire. Et que cette frugalité-là, elle a été apportée par les provinciaux, par l'aristocratie provinciale. Et c'est cette frugalité-là qu'on trouve dans la maison de Marc Aurèle, frugalité qui lui était transmise par sa mère. Et évidemment, il y a un fond stoïcien extrêmement important là-dedans.
Oui, mais en même temps, vous dites, les stoïciens, c'est pas eux qui vont être les vainqueurs. Les aristocrates s'occupent de grand commerce ou de mise en valeur de leur propriété parce qu'ils n'ont plus le pouvoir.
Ben oui, le pouvoir a été confisqué. Le pouvoir a été confisqué par un seul. Ils étaient les rois du monde dans l'étape précédente, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc ils se sont sentis dépossédés, et pas tous. Certains ont continué de servir le pouvoir, mais une partie d'entre eux a comploté. Donc il y a eu une répression terrible au niveau de l'aristocratie. Il y a des têtes qui sont tombées, d'une part, et d'autres, il y en a d'autres qui se sont mis à faire autre chose et qui ont développé ce que Michel Foucault appelait le souci de soi. Ils se sont occupés d'eux-mêmes, ils se sont occupés de leurs femmes. Et le mariage a muté. Le mariage, à partir des années 100 après Jésus-Christ, n'a plus été ce qu'il était dans le passé, où une femme n'était qu'un moyen d'établir une lignée et de transmettre un nom.
Enfin, heureusement que dans ce processus d'individualisation qui va de pair avec la mondialisation, sur une ligne de crête se tient le stoïcien Marc Aurèle, auquel vous avez consacré il y a peu, chez Payot, un livre, Yves Roman. On va l'entendre au dernier jour de sa vie. On est en 180 de notre ère. Il dialogue avec le général Maximus et on va l'entendre revenir aux principes fondateurs de Rome, mis en danger par les nouveaux processus.
Tu m'as fait demander, César ?
Dis-moi encore, Maximus, pourquoi sommes-nous ici ?
Pour la gloire de l'Empire.
Depuis que je suis devenu César, je n'ai connu que 4 ans sans guerre, 4 ans de paix sur 25. Et pourquoi ? J'ai brandi le fer. Rien de plus.
César, 5 000 de mes hommes sont là-bas, dans le froid et la boue. 3 000 d'entre eux sont couverts de sang et d'entailles. 2 000 n'en reviendront jamais. Je ne veux pas croire qu'ils se sont battus et sont morts pour rien.
Et que voudrais-tu croire, Maximus ?
Ils se sont battus pour toi. Et pour Rome.
Et qu'est-ce que Rome, Maximus ? Tu n'as pas vu ce qu'elle est devenue. Il y eut autrefois un rêve qui s'appelait Rome que l'on ne pouvait que murmurer. Maximus, nous allons murmurer maintenant, tous les deux, toi et moi. Tu me parlais de ton foyer.
Ma maison est sur les hauteurs qui dominent Trujillo. Un endroit très simple. Des pierres qui chauffent au soleil. Un potager qui sent les aromates la journée et le jasmin le soir. À l'entrée, il y a un énorme peuplier. Des figues, des pommes, des poires et la terre, Marc Aurèle, noire. Noire comme les cheveux de ma femme. Des vignes sur le côté sud, des olives au nord, près de la maison des chevaux sauvages, vient narguer mon fils. Il voudrait être l'un d'eux.
Ah, je t'envie, Maximus. Tu as une belle maison.
Et il va avoir une belle mort, du moins dans le film Gladiator de Ridley Scott, Marc Aurèle, puisqu'on va évoquer devant lui le foyer, la source, la frugalité, la maison, la propriété.
La famille de Marc Aurèle est une illustration parfaite. Nous ne savons pas tout de leur propriété, mais Marc Aurèle est un héritier de 5 ou 6 fortunes colossales. Ce que je voudrais dire, c'est en matière d'évolution économique, c'est que le système que nous avons décrit, qui est le système de la République, qui est un système de grand commerce, etc., le système a muté. Il a muté comment ? Parce que les empereurs romains ont été contraints de nourrir pour partie la plèbe de Rome et de gérer cette énorme ville. Et on a multiplié les moyens d'y arriver. Et on est donc passé d'une économie fondée en partie sur le marché à une économie dirigée. Et dirigée par qui ? Non plus par des actions à l'équivalent de la bourse, mais dirigée par les procurateurs impériaux. Et c'est-à-dire que les actions économiques sont passées entre les mains de très hauts fonctionnaires. Cette économie, on peut la comparer, c'est pas moi qui le dis, c'est Philippe Norel qui le disait, on peut la comparer aux économies des monarchies orientales, et c'est en partie une régression.
Il y a des processus de régression en même temps qu'il y a des processus de mondialisation. Vous décrivez Rome et sa première mondialisation aux éditions Payot comme une pierre d'attente. Merci à vous, Yves Roman. L'émission a été réalisée par Jacques Sigal. La préparation, c'était Franck Olivard, et à la technique, Rémi Quincé.